Et la plaque dentaire des hommes et femmes de Néandertal à la une de la science aujourd'hui. Et cette plaque dentaire, elle est riche de microbes, mais aussi d'enseignements.
Quel que soit votre âge, vos dents sont menacées. Pensez-y, on est toujours trop jeune pour perdre ses dents. Alors attention à la plaque dentaire. Ce dépôt invisible, où fourmillent des millions de bactéries, se reforme sans cesse, peut se glisser sous les gencives et les affaiblir. On est toujours trop jeune pour perdre ses dents.
Mes précieuses plaques dentaires, la preuve avec ces deux publications dans la revue Nature cette semaine, qui nous permettent de comprendre les habitudes de vie de nos lointains cousins, les Néandertaliens, il y a 50 000 ans en l'occurrence, et grâce à l'analyse de centaines de fragments d'ADN contenus dans la plaque dentaire de plusieurs individus trouvés en Espagne et en Belgique, eh bien nous savons maintenant que les Néandertaliens mangeaient aussi bien de la viande que des champignons ou même des mousses, mais surtout qu'ils pratiquaient une forme de médecine à base de plantes. Bonjour Antoine Balzo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes paléoanthropologue pour le CNRS et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, qu'est-ce qui est le plus surprenant finalement dans ces nouvelles révélations? Le régime alimentaire qui se précise ou l'usage de la médecine par Néandertal?
Faut-il choisir entre les deux? En fait, ça nous montre surtout que c'est beaucoup plus varié que ce qu'on pensait. On fait souvent des cases, surtout en préhistoire, on essaye d'avoir une image générale. Là, le fait d'étudier des individus avec des techniques un peu originales, nouvelles, là c'est la première fois qu'on arrive à faire ça, nous montre qu'il y avait une diversité de comportements, de manières de vivre importantes, ce qui est finalement assez logique. Et là, sur trois Néandertaliens étudiés, on a pu voir une grande diversité de consommation, de choses très très différentes. Et puis la surprise, en effet, c'est d'aller encore plus loin dans notre compréhension de leur intelligence et de leur considération de l'environnement, puisqu'on se rend compte qu'ils savaient sélectionner des plantes qui leur permettaient de se soigner.
Alors, quels étaient ces remèdes-là qu'on a trouvés dans ce tartre ?
On a trouvé du pénicillium, en fait. C'est sur un des individus qui était connu pour avoir un abcès dentaire très marqué. On se doutait déjà qu'il avait utilisé des plantes parce qu'il y avait une première étude qui avait trouvé des micro-traces de camomille et d'une autre plante qui a des vertus calmantes. Mmh. Et là, le tartre a révélé encore un peu plus fort avec cette information-là qui montre qu'il maîtrisait presque les antibiotiques, qu'ils arrivaient à se soigner d'une manière assez incroyable, ce qui montre vraiment une connaissance de l'environnement assez poussée et puis une transmission de l'information aussi pour arriver à se soigner.
Comment on est sûr que c'est une consommation à but thérapeutique? On a d'autres preuves?
On n'en a pas la certitude absolue, mais il se trouve quand même que là, on a un individu qui a un problème dentaire flagrant, on l'avait vu sur l'os, et qui a plusieurs plantes dont on sait qu'elles n'ont pas forcément d'utilité alimentaire, mais clairement des vertus médicinales.
Hubert, il faudra rajouter dans la prochaine édition de votre livre que Néandertal utilisait également la camomille, parce que vous y faites référence justement dans votre ouvrage.
Message reçu.
Voilà.
Alors, les auteurs ne parlent pas de médecine, ils parlent d'automédication. Pourquoi on ne parle pas de médecine néandertalienne? Alors,
je crois que c'est une question de vision de notre humanité à nous et de ce qu'on appelle de la médecine. La médecine, c'est le fait qu'il y ait un professionnel qui donne quelque chose pour soigner. Et là, dans l'article, ils utilisent le terme d'automédication avec sûrement ce sous-entendu qui était que on bricole avec ce qu'on a autour pour se soigner soi-même. Mais on n'a pas de certitude sur ça. On ne sait pas s'il y avait une vraie connaissance médicale et s'il y avait des Néandertaliens qui avaient des vertus, des connaissances un peu plus fortes que les autres et qui prodiguaient leurs soins aux autres individus.
Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour obtenir ces informations à partir de ce tartre qui a 50 000 ans?
Les progrès techniques ont beaucoup aidé. Il y a plein de disciplines qui se raccrochent à l'anthropologie aujourd'hui et qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin parce qu'on arrive à voir des informations complètement cachées et inespérées. Être capable d'imaginer la couleur de cheveux, les maladies, la couleur de peau des individus, c'était inimaginable auparavant et maintenant on y arrive.
Est-ce qu'on trouve des différences de comportement alimentaire entre les Belges néandertaliens et les Espagnols, Antoine Balzo?
Alors, il y a une grande différence, mais en fait, il faut aussi relativiser. Pour le moment, cette étude-là n'a utilisé que 3 individus, ce qui est peu, mais qui montre déjà une très très grande diversité. Et dans l'histoire de la nutrition de Néandertal, on avait une vision de carnivore exclusif, simplement parce que dans les grottes, on trouve surtout des ossements. Qu'après, les isotopes nous ont dit qu'en effet, la viande avait une grande part, mais plus les techniques progressent, plus on se rend compte que c'est varié. Et là, justement, dans le cas d'El Cidrón, c'est un site en Espagne où il y a 2 individus, où tout ce qui a été retrouvé dans leur tarte, ce ne sont que des végétaux, aucune trace animale. Alors, ils en ont peut-être mangé, ça n'exclut pas le fait qu'ils en mangeaient parfois, mais ça montre quand même une diversité alimentaire importante.
Par contre, ce qui est rigolo dans ces Néandertaliens d'El Cidrón, c'est qu'eux-mêmes ont été mangés.
Oui, ils n'ont pas eu de chance. C'est des végétariens dévorés par d'autres Néandertaliens.
Donc, il y avait du cannibalisme, c'était courant chez eux?
C'était pas courant, ça arrivait chez Néandertal, mais comme c'est arrivé chez Homo sapiens, dans différentes régions historiques et préhistoriques, Néandertal a connu ça parfois, et El Cidrone, c'est le cas ultime, mais c'est un site extraordinaire pour ça. C'est un site où on a retrouvé des restes très isolés d'un groupe qui a sûrement été tué en très très peu de temps, et c'est pour ça que ça apporte autant d'informations. C'est que d'habitude, en préhistoire, on a quelques objets épars dans un site, là on en a plein et qui sont contemporains.
Est-ce qu'on est capable de savoir si les Néandertaliens se lavaient les dents ?
A priori, je ne crois pas qu'on en ait encore parlé ou discuté ou qu'il y ait des preuves qui permettent d'avancer ça. Mais on sait qu'il y avait quand même un soin dentaire puisqu'ils utilisaient fréquemment
des cure-dents,
dans plein de sites. C'est quelque chose d'assez fréquent dans plein de régions différentes, l'utilisation des cure-dents.
Alors, il y a une dernière chose dans la publication qui est aussi rigolote. Les chercheurs pensent avoir trouvé la preuve que les Néandertaliens se sont amourachés des hommes modernes. Je n'ai pas très bien compris, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
En fait, c'est un peu plus que ça et je pense qu'il y a un côté amusant dans l'histoire. On le savait déjà qu'il s'était passé des choses puisqu'on a tous un petit peu d'ADN néandertalien en nous, ce qui montrait qu'il y avait bien eu des rapprochements à certains moments. Oui. Et là, il se trouve qu'ils ont repéré dans la bouche un microbe qui ressemble à une version qui existe chez Homo sapiens. Mais la diversité génétique entre le microbe néandertalien et celui de sapiens est trop faible par rapport à l'ancienneté de la séparation des deux espèces. Et donc, ils estiment que ce microbe a dû être partagé il y a à peu près 120 000 ans. Et vu que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bouche, ils partent du principe qu'il y a eu des échanges et donc peut-être des baisers.
Mais ce serait la première preuve d'un baiser.
Ah oui, ça c'est...
Ça montre aussi qu'à l'époque, l'humanité était... plus partageuse, ouverte, qui avait des échanges importants, puisque Néandertal, Sapiens, Denisova, il y a 100 000 ans, vivaient sur une même planète et ont eu parfois des enfants ensemble nous ont légué du patrimoine génétique. Et ça méditait aujourd'hui où on a tendance à se renfermer de plus en plus.
Jusqu'à pratiquer le French kiss, c'est formidable ça. Voilà. Cette publication donc dans Nature, et vous voyez, Hubert Reeves, finalement, la pharmacopée, celle de ces plantes toutes simples dont vous parlez, ça fait très longtemps qu'on l'utilise en fait.
Oui, c'est intéressant.
Néandertal, c'est aussi un livre, Antoine Balzo ?
Oui.
Chez quel éditeur, rappelez-nous ?
Chez Belin.
Souvenez-vous.
Néandertal, l'enquête illustrée.
Le livre que vous avez écrit
vous-même.
Voilà,
c'est ça,
c'est chez Belin, une enquête
très,
illustrée.
Très, très bien.
Merci beaucoup, en tout cas. Axel, on se retrouve la semaine prochaine pour la Une, bien entendu. Mais également, tiens, avec une petite surprise mercredi soir pour nos auditeurs internautes.
Alors, on le dit maintenant, oui, on sera en live sur Facebook. Voilà, l'émission à 10 ans, on teste de nouveaux moyens de vous parler. On sera en live mercredi 15 à 18h. 8h30 exactement, et Mathieu, vous serez là aussi.
C'est ça, on sera là même avec toute l'équipe, on vous présentera absolument tout le monde, Stéphanie Texier, Chantal de Montagnier, Lucie Sarfati, on sera tous là pour vous répondre, et puis on aura également des invités surprises avec nous pour nous suivre. Eh bien, il suffit de vous abonner à notre page Facebook, si jamais vous n'y êtes pas.
Et oui, il est temps de s'abonner et de nous retrouver à 18h30, donc mercredi.
Voilà, et d'ici là, bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, attention aux antidouleurs pendant le premier trimestre de la grossesse. Une nouvelle étude menée par l'INSERM montre que l'ibuprofène, tout comme l'aspirine et le paracétamol, entraîne un dérèglement de la production des hormones testiculaires fœtales, avec un risque accru de non-descente testiculaire. Cette étude menée sur des rats confirme d'autres données épidémiologiques plus anciennes. Selon les auteurs, 3 femmes sur 10 consomment des antidouleurs pendant leur grossesse. Pour la première fois, des chercheurs étudient une colonie de fourmis génétiquement modifiées, épargnées jusque-là par le génie génétique en raison de la difficulté à élever en laboratoire des bébés fourmis. Et bien cette fois-ci, c'est fait. Une équipe de l'université de Rockefeller a bataillé plus de 2 ans et essuyé plus de 10 000 échecs avant de réussir à modifier le gène de l'olfaction d'une espèce de fourmi. Le but de la manœuvre était d'étudier l'impact de ces modifications sur la vie en société de la colonie. Les scientifiques ont observé que privés d'un gène clé, leurs petites créatures se sont révélées incapables de suivre le chemin odorant laissé par leurs congénères et elles ne sont jamais sorties de la colonie. Et puis pour finir, la photo insolite d'une petite lune boursouflée de Saturne, pas plus large que Paris et sa banlieue perdue dans des anneaux intérieurs de la géante de gaz. La Lune Pan, c'est son nom, photographiée pour la première fois en gros plan par la sonde Cassini, a une forme bien particulière. En effet, avec ses gros bourrelets de matière au niveau de son équateur, elle ressemble plus à une tourte à la viande qu'à une sphère. La première explication à ces excroissances serait l'interaction entre la Lune et les grains de matière composant les anneaux de Saturne, qui sont très proches. La photo de Pan est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. We'll be right back.